Bienvenue sur les voies de la franchise. Ce podcast est dédié à tous les acteurs de la franchise et du commerce pour qu'ils viennent partager leur succès entrepreneurial, les raisons de leur choix, leur vision du commerce et les enjeux pour demain. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, agence de marketing qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing par l'écoute et l'analyse des données clients. Bonne écoute.
Bonjour Samuel et merci beaucoup pour ta réponse très rapide et très spontanée à cette invitation d'enregistrement de ce podcast.
Merci, avec plaisir. J'espère que j'arriverai à répondre à toutes les questions.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on échange sur ton activité, puisque le 3 décembre 2015, en fait, tu as monté ce magasin Biocoop, enfin ce magasin bio, à l'enseigne Biocoop sur Vincennes. Et c'est dans ce magasin que nous enregistrons ce podcast. Donc j'ai eu l'occasion de faire le tour de ce beau magasin. Ben voilà, comment tu en es arrivé là?
Eh ben, pour en arriver là, il a fallu beaucoup travailler, bien sûr, mais il a fallu aussi un licenciement économique, parce qu'avant j'étais responsable marketing dans une société coopérative qui faisait des produits de commerce équitable. Et du coup, suite à ce licenciement économique, malgré que j'aimais beaucoup mon boulot, j'ai dû me remettre en question un peu pendant cette période de chômage. Et là, l'entrepreneuriat est arrivé comme un peu une évidence, parce que j'aime beaucoup être autonome, j'aime beaucoup essayer des choses et voilà, et en discutant avec le voisinage, en discutant avec les parents d'élèves, parce que j'avais déjà des enfants dans le quartier, c'est un quartier que je connais bien parce que j'y habite depuis maintenant 15 ans, je suis arrivé à la conclusion que ça manquait un magasin bio. Et du coup je me suis dit, tiens, ça va arriver forcément, donc si ça arrive, autant que ce soit nous qui le fassions plutôt que une chaîne dans laquelle j'ai pas trop confiance. Donc du coup j'ai contacté Biocoop, je les ai rencontrés sur un salon, là ils m'ont rassuré en me disant que l'argent c'est pas un problème, l'important c'est d'avoir du temps et de la motivation. Du temps, j'en avais, j'étais au chômage, la motivation plein parce que après 7 ans de militantisme dans le commerce équitable, j'étais à fond pour les produits éthiques et bio. Donc voilà, on est parti pour 2 ans de recherche de financement, 2 ans de recherche de partenaires, de réseaux, de
stages. On reviendra un petit peu peut-être sur toutes ces périodes et toutes ces étapes, mais tu parles spontanément avec nous. Alors je sais que tu as choisi en fait un mode de coopération, de coopérative pour monter ce magasin, une SCOP. Tu peux peut-être...
Une SIC.
Alors voilà, décris-nous un petit peu la différence entre tout ça, parce que c'est intéressant.
Ça marche. Eh ben, pour commencer, décrire rapidement ce qu'est une coopérative et ce qui différencie une coopérative d'une boîte classique. Le principe de la coopérative, c'est la démocratie, une personne égale une voix, c'est-à-dire que les sociétaires, les associés, ont un pouvoir qui est proportionnel au nombre de personnes et non pas au montant du capital qu'ils détiennent. Voilà, donc le pouvoir est décorrélé de l'argent. Après, il y a différentes formes de coopératives, des coopératives par exemple de consommateurs, il y en a beaucoup de magasins bio sous forme de coop de consommateurs en Bretagne par exemple, mais aussi en France. Des SCOP, alors la SCOP c'est une forme particulière de coopérative où les salariés sont eux toujours majoritaires, ils doivent le rester, donc c'est vraiment un outil au service des salariés. Et la SIC, encore une autre forme de coopérative, bien particulière celle-là, puisqu'elle est dite d'intérêt collectif. Puisqu'elle doit réunir en fait plusieurs parties prenantes ayant des intérêts a priori divergents sur une même activité, sur une même filière. Donc chez nous, par exemple, on associe à la fois les salariés de la coopérative, mais aussi les consommateurs et aussi les producteurs. Et donc l'idée, c'est de se dire comment on associe ces différentes parties prenantes de la filière bio. Eh bien, ces parties prenantes vont devoir dépasser leur intérêt individuel, avoir un meilleur salaire pour les salariés, avoir des prix plus chers pour les producteurs et moins chers pour les consommateurs, pour aller vers un intérêt collectif qui est de dire, on se crée un outil commun qui est un magasin, qui va être le relais entre les consommateurs et les producteurs, qui va faire vivre les salariés. Comment on fait pour que cet outil soit géré au mieux et finalement paye bien les producteurs, soit pas trop cher pour les consommateurs et des bonnes conditions de travail pour les salariés? on en discute ensemble, on s'associe, et puis bah, sur le principe donc démocratique, une personne égale une voix, transparence bien sûr, élection du gérant ou du conseil d'administration selon le type de SIC. Voilà, on a cette gouvernance particulière. Et puis pour terminer, la SIC, dans l'état d'esprit, c'est un peu le chaînon manquant entre l'association 1901 et la coopérative. Dans le sens où la SIC a encore comme contrainte que la majorité des bénéfices doivent être réinvestis en réserve impartageable. Dans les faits, c'est toujours 100% des bénéfices sont investis chez nous, par exemple. Mais du coup, ça permet de se dire que on a un garde-fou, que en fait, on n'est pas fait pour faire des bénéfices, mais on est fait pour être géré au plus juste, et que si bénéfices il y a, bah, ils resteront dans l'outil, ils pourront pas être reversés à des sociétaires ou des actionnaires. Donc on a, outre l'aspect coopératif qui fait qu'une part sociale normalement ne peut pas évoluer en valeur, hein, on ne peut pas la revendre plus cher qu'on l'a acheté, on a vraiment ce côté non spéculatif où les gens qui mettent de l'argent dans une coopérative, et notamment dans une SIC, le font pas pour en repartir avec plus à la fin.
Est-ce que c'est un format un peu imposé par Biocoop ou c'est un choix de ta part ou c'est
Pas du tout, c'est un choix de ma part. À la toute création de Biocoop, c'était imposé. Effectivement, quand Biocoop s'est créé en 86, c'était des associations de consommateurs qui se sont réunies et qui ont dit voilà, on va créer des magasins bio sous forme coopérative. Et à la base, Biocoop, c'était que des magasins sous forme coopérative et coopérative de consommateurs notamment. Et puis ensuite, devant l'arrivée des nouvelles chaînes de distribution bio, centralisées, intégrées, Biocoop a dû rattraper son retard de développement et donc a autorisé à ce que des porteurs de projets puissent aussi faire des magasins sous forme de SARL classique, de SAS, voilà. Et donc maintenant on est libre de faire d'avoir le statut qu'on veut. Par contre, on doit respecter le cahier des charges Biocoop. C'est aujourd'hui ce qui nous unit tous, c'est d'avoir ce cahier des charges commun.
Et quand tu as choisi Biocoop, est-ce que c'est tu avais fait le tour de toutes les enseignes bio ou c'était directement chez eux? Tu savais que tu voulais aller uniquement chez eux? Pourquoi?
Je savais que je voulais aller chez eux tout de suite. Je connaissais les autres enseignes, mais c'était évidemment Biocoop. Pourquoi? Parce que, comme je disais, ils ont un cahier des charges qui est unique. C'est-à-dire ce cahier des charges, il englobe à la fois l'aspect produit, par exemple interdiction de produits hors saison, interdiction de produits importés par avion, etc. L'aspect social, interdiction par exemple d'avoir plus de 25% de temps partiel, ou l'aspect environnemental, obligation d'avoir un fournisseur d'électricité 100% renouvelable. Donc c'est un cahier des charges très très complexe, très complet aussi, qui va vraiment sur tous les ingrédients des produits, des sujets de société, comme le fait d'interdire la vente d'eau en bouteille par exemple. Donc tout ça, ça contribue à aller vers ce qu'on appelle la bio, et pas le bio. On vend pas du produit bio, mais on vend l'agriculture biologique, quoi, c'est dans son ensemble. Et donc tout ça, ça implique une éthique, une priorité au commerce équitable notamment. 100% de nos chocolats sont commerce équitable, 100% de nos cafés. Ça, c'est vrai dans tous les magasins Biocoop, quel que soit leur statut. On donne la priorité aux produits locaux, toujours. Donc tout ça, ça nous unit et tout ça, ça fait que on sent qu'il y a une solidarité, qu'il y a une vraie coopération et que par rapport aux autres enseignes, on n'est pas juste un salarié lambda au sein d'une immense structure, quoi. On est porteur d'un projet politique avec nos différences de parcours, nos différences de positionnement commerciaux. Mais du coup, c'est ça qui est magique, c'est quand on se réunit tous dans les différentes instances de vie politique, et ben malgré notre diversité entre SARL, coopératives, personnes qui viennent de la distribution ou qui viennent plutôt des finances ou de je ne sais quel parcours. Eh ben, on a tous le même objectif, c'est faire progresser la bio, équitable, locale, de saison, réduire les emballages, et c'est très beau, c'est très très beau.
Dans cette notion de coopératif, en fait, tu as, au moment de la création de ce magasin, j'ai lu que tu avais fait appel, en fait, aux habitants de Vincennes. Ça s'est passé comment?
Tout à fait. De Vincennes, de Fontenay-sous-Bois, de Montreuil un peu aussi. Mais oui, tout le quartier des rigolos, en fait, d'où le nom du magasin Bio Rigolo. On a fait appel à eux dès 2013. On a créé une association de consommateurs, association qui existe toujours aujourd'hui. Et donc les gens qui adhéraient à cette association, du coup, nous soutenaient par leur cotisation, mais aussi par leur réseau. J'ai pu, grâce à ça, bénéficier de nombreuses compétences que j'avais pas moi-même, que ce soit en analyse juridique, immobilière, en communication, graphisme.
D'accord, ils sont venus t'aider pour dans ces différents éléments.
Ouais, pas seulement financièrement, mais aussi humainement, professionnellement. Et on a aussi sollicité des cigales aussi, des clubs d'investissement solidaire. Ça m'a permis de faire mes premières armes pour présenter le projet, pour le défendre, pour ensuite pouvoir concourir à d'autres prix, on va dire plus prestigieux, comme Réseau Entreprendre ou France Active. Donc voilà, c'est cette communauté-là qui a permis au projet aussi de se lancer et de se sentir un peu moins seul dedans.
Et donc vous vous réunissiez régulièrement, il y avait un bureau, il y avait parce que tu parles d'une association,
donc on faisait des typos, on montait des stands aussi pour parler du projet. J'ai fait un site internet aussi. Donc c'était sympa. Et aujourd'hui, l'asso existe toujours et permet justement d'avoir un petit budget pour faire des animations locales. Qui soit pas directement commercial. Donc, par exemple, on a fait plusieurs fois avec le cinéma de Vincennes des projections de films documentaires sur le thème de la bio, sur le thème de la transition, etc. Les salles étaient toujours pleines à craquer. Nous derrière, on offre le buffet, on fait un petit débat avec différents intervenants, et puis du coup, avec l'asso, on offre des places pour les adhérents de l'asso.
Ah oui.
Donc voilà, des choses comme ça, des consultations de naturopathes qui viennent se faire ici dans la cave du magasin. Qu'est-ce qu'on a fait aussi pour l'été, on a donné des graines pour les plantes mellifères pour aider les abeilles à vivre, notamment toutes les abeilles sauvages. Ça permet d'avoir une représentation des consommateurs au sein du magasin. En tout cas, ils peuvent s'investir comme ils le veulent à travers cet asso, quoi.
Très bien. Et donc aujourd'hui, au bout de 4 ans de ce projet, quels sont les prochaines étapes, comment tu vois l'évolution, comment ça se passe?
Eh ben, c'est plutôt positif, hein, au bout de 4 ans, parce qu'on est passé de 6 salariés en décembre 2015 à aujourd'hui 15 salariés.
Bravo.
On a bien progressé. On a aussi bien élargi les différentes offres qui nous tenaient à cœur. Sur le local, par exemple, on a une quarantaine de fournisseurs locaux. Sur le vrac, on a élargi la gamme pour être aujourd'hui à plus de 150 références en vrac, avec des choses un peu originales comme de l'huile d'olive, du vinaigre, du miel, etc. On va élargir encore bientôt. Et puis au niveau de la gouvernance aussi, ça a été aussi des choses qui ont évolué, faire comprendre la différence entre statut salarié, statut sociétaire, les différentes instances, qu'est-ce que c'est qu'une AG, qu'est-ce que c'est qu'une réunion d'équipe. Voilà, et puis en termes d'organisation aussi, aujourd'hui on a un magasin qui tourne beaucoup, qui sature presque on va dire, et du coup il faut être très organisé, donc les tâches doivent être vraiment bien postées, bien définies, et donc là les projets maintenant ça va être d'en ouvrir un deuxième, puisque l'Assemblée Générale a voté qu'on puisse essaimer dans un autre projet. Donc je suis missionné pour ce projet.
Des pistes de lieux de...
Quelques pistes, ouais, sur Vincennes, alentour, ouais.
Ça resterait sur Vincennes ?
Oui, le but, c'est de rester un projet local. C'est l'idée de la SIC. La SIC est toujours ancrée sur son territoire. Nous, on est ancrés sur ce territoire-là. C'est les consommateurs du coin qui nous ont aidés à nous créer et qui nous aident tous les jours à en faire leurs courses. Les salariés sont recrutés particulièrement dans la région. On n'a pas d'intérêt à faire un magasin, même si le projet pourrait paraître très intéressant, à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de Paris, parce que c'est pas notre politique, quoi, notre philosophie.
Et par rapport à cette enseigne Biocoop, en fait, comment elle t'accompagne au quotidien? Est-ce qu'elle vient te voir de temps en temps? Est-ce que vous avez des réunions? Ça se passe comment?
Oui, alors on a quelques... pour les salariés, on a beaucoup de formations, ça c'est très bien. Moi, au niveau de la gérance, on a aussi une équipe qui nous aide au niveau local sur l'aspect gestion, sourcing des fournisseurs locaux, communication... On a quelques aides là-dessus, mais c'est surtout nous qui aidons Biocoop en fait. C'est-à-dire que Biocoop impose à ce qu'on ait une vie coopérative qui soit intense et une vie politique notamment. Et donc, on doit des jours de travail à la coopérative. En fonction de notre chiffre d'affaires, par exemple, moi, je devrais travailler au moins une quinzaine de jours pour la coopérative. Ça soit des commissions, que ça soit des réunions politiques, que ça soit des groupes de travail ou des comités de pilotage. Voilà, moi je suis par exemple représentant de Biocoop au sein d'un label de commerce équitable qui s'appelle les producteurs paysans.
Oui.
Voilà, je suis co-responsable du bassin Île-de-France Sud-Est qui réunit une vingtaine de magasins. Donc voilà, tout ça permet en fait de faire en sorte que les services centraux, les services techniques soient au service de la coopérative et que soient toujours bien les adhérents, les sociétaires qui soient les pilotes de la gouvernance.
C'est un peu un modèle à l'Intermarché ou à d'autres systèmes de distribution de cette nature.
C'est ça, Système U, Leclerc sont aussi des coopératives. Voilà. Mais chez nous, c'est particulièrement fort et le but, c'est de ne pas tomber dans le travers des grandes coop agricoles françaises où malheureusement, les services techniques ont pris le pouvoir et sont plus tellement à l'écoute des besoins des sociétaires.
Et justement, l'écoute, comment toi tu organises l'écoute de tes clients? Est-ce qu'ils te font remonter spontanément des besoins, des envies de...
Bien sûr, ouais. On a un petit cahier de suggestions en caisse où les gens écrivent régulièrement des demandes ou souvent même des petits mots gentils. Un mot sur deux, c'est un petit mot gentil, ça fait très plaisir. Ce matin, on avait encore la visite du circuit des entrepreneurs vincennois. Donc, c'est une dizaine de personnes qui viennent visiter différentes boutiques entrepreneurs à Vincennes.
Oui, tous les ans, ils organisent ce petit circuit, oui. Ouais.
Leur histoire. Et puis, via le site internet, maintenant Google Maps, c'est tout le monde passe par là. Donc, voilà, c'est là qu'on a les avis, c'est là qu'on a les retours clients aussi.
Donc, tu es passé aussi sur Google Maps.
Ouais, bien sûr.
C'est un passage obligé.
Oh, oui. Donc, voilà.
Très bien. J'ai vu que tu étais aussi membre du conseil d'administration de l'association Consommacteurs.
C'est ça.
Donc, c'est cette association, en fait, qui a au départ financé et aidé le montage du magasin, ou c'est encore une autre association?
Pas du tout. C'est une autre association, une association, elle, nationale, qui existait bien avant le magasin. C'est une association donc qui a pour but de promouvoir la consommation bio, locale, de saison, en vrac, zéro déchet. C'est une association très dynamique pour notamment faire du lobbying auprès des cantines, pour avoir plus de bio dans les cantines. C'est une association qui édite des outils pédagogiques, par exemple, que ce soit des livrets d'informations, mais aussi ils ont édité un super jeu de société qui s'appelle Ludo Bio. Voilà, qu'on peut acheter sur internet, qui est notamment acheté par pas mal d'instituteurs, de centres de loisirs ou d'organismes professionnels. Donc voilà, c'est une asso qui a son siège à Montreuil. Donc pour moi, c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir y accéder à vélo, comme j'accède au magasin très rapidement. C'est vrai que je suis très proche de toutes mes responsabilités, on va dire. Donc, mon mandat d'administrateur me permet de les soutenir un peu, soit en conseil d'administration, soit quand ils organisent des projections de films, d'aller prendre la parole pour eux, soit tenir des stands pour eux, voilà.
Donc, beaucoup d'activités. Tu as des trucs pour gérer ton temps ou pour trouver le temps de faire tout ça?
Disons qu'au niveau du magasin, aujourd'hui, l'équipe est vraiment très autonome. Je peux partir 2 semaines en vacances les yeux fermés. Donc ça, c'est un gros plus.
Oui.
Ensuite, comme je disais, la proximité géographique. C'est vrai que je me suis astreint à faire ce magasin à côté de chez moi. Si on en fait un deuxième, ça sera aussi à côté. Et tout ce dans quoi je m'investis, il faut que ça soit accessible à pied ou à vélo, quoi. Mais j'ai pas de voiture, je refuse d'en avoir une, et donc du coup, pour moi, il faut que tout se fasse à pied, à vélo, en transport en commun, mais voilà, c'est un engagement écologique, mais aussi d'équilibre de vie, parce que perdre son temps dans les transports, c'est trop dommage.
Oui, tout à fait. Par rapport à cette confiance dans le management, Est-ce que tu aurais un truc, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Comment tu as pu construire cette confiance? Parce que tant de gens se plaignent de ne pas réussir à garder leurs équipes, surtout dans le commerce. Beaucoup disent qu'il y a un turnover énorme, on a du mal, les responsables de magasins, on a du mal à tenir nos équipes. Est-ce que toi, c'est le modèle du magasin qui a fait ça? C'est l'engagement? C'est qu'est-ce qui, à ton avis, explique cette fidélité et cette confiance?
La base, déjà, c'est le recrutement. Faut pas se tromper. Donc, les entretiens doivent être drastiques. Il faut être très, très, comment dire, perfectionniste là-dedans pour être sûr de la personne qu'on recrute. Et donc, moi, les personnes que je recrute, c'est les personnes qui ont vraiment la militance chevillée au corps. C'est des gens qui font ça pas pour avoir un salaire à la fin du mois et vivre simplement. C'est des gens qui font ça parce qu'ils croient au projet. Et donc, du coup, je sais qu'ils sont attachés à ce projet. Donc il y a ça. Après, il y a aussi effectivement notre structure qui fait qu'on a quand même des conditions un peu plus favorables, je pense, que dans d'autres structures similaires. Parce que bah du coup, étant une structure non lucrative, on peut mieux rémunérer les salariés. Étant un magasin qui tourne bien aussi, bah les salariés peuvent être mieux rémunérés aussi. Faisant un recrutement plutôt local, les salariés finalement viennent tous à pied ou à vélo, donc ils gagnent un confort de vie, et du coup bah ils sucent pas non plus dans les transports, ça j'ai fait attention. Et puis on essaye aussi, moi j'essaye vraiment, par exemple sur la partie planning, qui est un peu le nerf de la guerre aussi sur le bien-être au travail, hein, d'être à l'écoute des demandes des uns des autres, et d'arriver à trouver des solutions qui contentent tout le monde. Pour que ces plannings soient pas imposés, mais discutés, proposés, et qu'on arrive à un consensus, quoi. Donc on a une culture, je pense, de discussion, d'écoute, qui fait que les gens se sentent à l'aise ou libres de partager leurs difficultés ou leurs réussites. Et puis voilà, une partie rémunération qui est quand même intéressante, surtout qu'on a un accord d'intéressement qui fait que les personnes ont une bonne prime en fin d'année. Donc voilà, on a fait la prime Macron la dernière, on va la refaire encore cette année. On n'hésite pas, enfin moi j'hésite pas, tout ce qui peut être non chargé comme oui, prime ou comme avantage, à le donner. Parce que voilà, c'est du salaire direct, et donc tout ce que l'entreprise peut donner aux salariés, faisons-le, quoi.
Oui, tout à fait. Bon, on parle en ce moment de symétrie des attentions, mais c'est un petit peu ça en fait. Le bien-être des salariés permet le bien-être aussi des clients, parce que finalement le salarié est mieux pour servir le client, est plus attentif et plus à l'écoute, parce qu'on est plus à l'écoute de lui-même. Donc
ouais, j'y fais très attention, et on a beaucoup de commentaires sous Google Maps de gens qui nous disent, clients qui nous disent que l'équipe est chaleureuse, que les gens sont souriants, qu'ils sont bien accueillis. Et ça, c'est ce qui différencie Biocoop des autres enseignes, parce qu'on investit en fait sur la main d'œuvre. Chez nous, on a un taux de main d'œuvre qui est de l'ordre de 15-16% du chiffre d'affaires, alors que vous prenez n'importe quelle enseigne en distribution, on va être en dessous de 10%. Donc ça veut tout dire, de la présence qu'il y a en rayon, de la capacité à conseiller le client, et surtout de la valeur qu'on accorde à ses employés.
Les prix chez Biocoop sont plutôt connus pour être un peu plus chers que dans d'autres enseignes bio, et pourtant c'est en croissance. D'après toi, les consommateurs sont prêts à consommer moins mais mieux, à transférer une partie de quel budget vers l'alimentaire pour pouvoir augmenter en qualité, en confiance, en...
Alors, il y a différents sujets, effectivement. Alors, le côté transfert du budget vers l'alimentaire, ça fait longtemps, effectivement, que la part de l'alimentaire ne cesse de régresser. Et c'est un vrai problème parce que, aujourd'hui, l'offre alimentaire ne correspond pas à la réalité de son coût, en fait. Quand on achète des produits à très bas prix, non bio, on se rend pas compte que derrière, en fait, ça va nous coûter en impôts pour dépolluer les sols, polluer avec les intrants chimiques, par exemple, pour cotiser à l'assurance maladie, parce que, effectivement, ces produits avec des intrants vont créer des problèmes de maladie. Donc, tout ça, c'est des coûts cachés, en fait, que la société paye derrière pour avoir des produits à bas prix. Des produits qui vont venir de loin, des produits qui vont être hors saison, des produits qui vont être suremballés. Et derrière, nous, on paye le recyclage de ces emballages, on paye les coûts de santé, on paye tout ça. Alors que si on paye un juste prix d'un produit qui est bien profit, qui est bien fait, c'est-à-dire qui pollue le moins possible, qui est le plus sain possible, qui est le plus local possible, qui est le moins emballé possible, bah finalement, derrière, on n'aura pas de coût caché, quoi. On paye le vrai prix. Donc le but, c'est ça, c'est de se dire, essayons de repenser le vrai prix de notre alimentation et pas forcément comparer entre différents produits les prix. Parce que vouloir acheter toujours moins cher, bah c'est pas forcément ce qui va nous coûter le moins, en tout cas en tant que société. Voilà. Ensuite, au niveau des prix chez Biocoop, ça a bien changé hein, depuis le début d'année. Biocoop a fait une baisse générale de prix dans tous les magasins. Nous, ça fait 2 ans d'affilée qu'on fait des baisses de prix. On a commencé par une baisse aux rayons fruits et légumes. Parce que comme on fait des bénéfices, du coup, on se dit, bon, bah, hop, faut les remettre aux consommateurs.
Les redistribuer aux consommateurs.
Donc, on dit, bah, tiens, on baisse nos prix. Donc, on a baissé sur ces fruits et légumes la première année. La deuxième année, on a baissé sur tous les produits d'épicerie et d'ultra frais. Et du coup, aujourd'hui, les études montrent qu'on est moins cher, en fait, que les autres réseaux spécialisés. En tout cas, que les, alors pour citer quelques marques, Naturalia, Bio C'est Bon, on est bien en dessous. Après, certaines grandes enseignes qui font vraiment des très gros volumes, je pense à Sobio par exemple, ou Natureo, qui font des immenses magasins, eux arrivent vraiment à tirer les prix vers le bas et sont peut-être un peu moins chers. Mais voilà, nous c'est des modèles qui nous parlent pas parce que c'est des grandes surfaces en extérieur de ville.
Oui.
Donc ça veut dire prendre sa voiture pour aller faire ses courses. Et donc là, le coût écologique du produit explose. Quand on Biocoop fait des analyses de cycle de vie de produit, donc où on calcule l'empreinte carbone du produit vraiment depuis sa création jusqu'à son déchet, on se rend compte que la moitié de cette empreinte carbone, elle est due au trajet magasin-domicile. Parce que ce trajet est généralement fait en voiture et que du coup, bah, transporter une cagette de produits alimentaires dans une voiture qui pèse une tonne, bah, faire brûler de l'essence pour ça, c'est un coût carbone énorme, quoi.
Tout à fait, oui.
Donc, d'où pour nous la volonté de faire un magasin de centre-ville, justement, pour inciter les gens à venir à vélo ou à pied faire leurs courses, pour diminuer l'impact carbone de leurs courses.
Bon, vous faites aussi de la livraison en vélo, pas encore ?
Pas encore, parce que pour l'instant, c'est difficile de trouver des prestataires vraiment éthiques sur le sujet.
Oui.
Vous avez dû voir dernièrement le sujet de Cache Investigation sur Deliveroo et compagnie.
Ouais.
Donc voilà, ça fait longtemps que nous, on prend avec des pincettes cette ubérisation de la société. Et donc voilà, si on doit faire des livraisons, il faut qu'on le fasse bien. Et on n'a pas encore trouvé, on va dire, la solution pour ça. Et puis, le but aussi, c'est d'être un magasin qui soit un lieu de vie, un lieu de rencontre. Dans notre statut social, c'est dire, on dit, nous, on veut créer du lien entre producteurs, salariés et consommateurs. Donc pour ça, il faut un lieu où les gens se rencontrent. Et voilà, c'est pour ça que à l'avant du magasin, il y a cet espace avec les fruits et légumes en arc de cercle où ça fait place de village et les gens se rencontrent. C'est pour ça qu'on a dès l'entrée l'espace traiteur avec le fromage à la coupe, le côté boulangerie où les gens sont vraiment comme chez le petit artisan commerçant du coin et on crée du lien, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Avant de démarrer cet entretien, tu me disais que tu étais un écouteur de podcast depuis longtemps.
Oui.
Si tu en avais peut-être un ou deux à nous recommander, ça serait lesquels ?
Alors, comme podcast, je recommanderais par exemple Thinkerview, qui est un podcast de longue durée, mais qui a toujours des invités très intéressants. Et j'aime beaucoup dans ce podcast... leur principe communautaire, où c'est la communauté du podcast qui va choisir les invités, qui va définir les questions, qui va surtout fact-checker tout ce que l'invité va dire. Et donc, on a l'assurance comme ça d'avoir des informations qui sont vérifiées. Et je trouve ça pas mal. Et le
présentateur, ils débattent de tout sujet de société ?
De tout sujet de société, ça peut être géopolitique, comme ça peut être économique, comme ça peut être environnemental. Voilà, les invités, oui, sont souvent des économistes, des géographes. Il y a assez peu d'hommes politiques. Voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans les podcasts, c'est que on n'a plus les éternels, les mêmes invités qu'on a à la radio ou à la télé, qu'on voit toujours partout, qui tiennent toujours le même discours. On a plus des gens du commun qui nous parlent de leur quotidien ou qui nous parlent de leur expertise et qui sinon en fait ont jamais accès aux grands médias.
C'est vrai que ça donne la parole à des gens qu'on n'entend pas forcément, oui.
Ouais.
Comme toi aujourd'hui.
C'est ça.
Pour conclure, je vais te poser une question un peu plus personnelle puisqu'on est sur les voies de la franchise. Donc en toute franchise, qu'est-ce que tu fais quand tu doutes ?
Alors, quand je doute, je prends un maximum de précautions. Je suis du genre un peu... malheureusement ou heureusement, fric contrôle. Et donc, dès que j'ai un doute, je mets des garde-fous partout. Voilà. Donc, c'est un peu pénible des fois, mais je suis obligé de faire ça. Et puis ensuite, j'en parle aussi autour de moi. J'ai compris que discuter de ces choses qui nous font douter, c'est déjà libérateur d'en parler,
oui,
plutôt que de ruminer dessus. Et puis en parler à des personnes qui sont pas forcément concernées, des amis, même des connaissances, ça permet d'avoir des regards extérieurs et de reformaliser les choses, c'est toujours utile. Donc,
t'as un genre de petit mentor, non, de quelqu'un qui te sert un peu de mentor, avec qui tu peux parler ou...
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Des gens qui travaillent pas du tout le même domaine, plutôt dans le domaine de l'informatique, voilà, du développement de projets en mode de start-up, voilà, mais des gens avec qui on a des passions communes et qui me permettent d'avoir un regard. Un peu moins terre à terre, un peu plus business, quoi. On va dire business angel, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Samuel. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, à bientôt sur les voies de la franchise.
Merci.
Au revoir.
Vous, auditeurs, je vous invite à suivre les voies de la franchise sur Instagram et LinkedIn. Et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoiesdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que les voies de la franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.